Vous avez reçu un SMS sur votre téléphone fixe. Voici le message.
GDF, Suez, 30,37 plus 25,01%. ArcelorMittal, 26,33 plus 19,67%. Ah, il y en a qui vont faire petit le champagne aujourd'hui. Victor.
À bientôt sur les services d'Orange.
Oui, bonjour. Alors, voilà, dans la rubrique « Rions un peu » et « Fillon a raté sa vocation de clown », l'Europe lance un plan d'aide aux banques de 1700 milliards d'euros, bien mieux que les Américains. Et ça a tellement fait, et ça ne coûtera surtout pas un centime aux contribuables. On rigole. Et ça fait tellement rire nos amis boursicoteurs que ça leur a redonné un moral d'enfer. Comme quoi l'économie n'est qu'une question de morale, hein. On rigole, et puis voilà, ça repart. Donc ça leur a donné un tel moral d'enfer que les bourses prennent 10-15% en une journée. Voilà, bon. En attendant, il y a toujours 100 millions de pauvres en Europe. Voilà, bah ça fait 17 milliards par pauvre, hein. Alors, quitte à faire, vu les sommes en jeu, on pourrait même étendre la mesure à tous les Européens. Je sais pas combien on est, mais on doit être moins d'un milliard. Donc, ça nous ferait des sommes considérables et ça sauverait les banques, puisqu'on a tous un compte en banque, hein. On va pas garder 17 milliards en espèces sous nos matelas, il y aurait pas la place, hein. On a beau avoir de grands matelas, enfin. On rigole, et jusqu'au moment où les bourses vont se recasser la gueule et où l'État bah, devra faire jouer son système de garantie. Là, peut-être qu'on rigolera moins. Mais bon, en attendant, gardons le moral et allons-y gaiement. Spéculons, en attendant des jours meilleurs.
Salut Daniel. Quand quelqu'un vous vole de l'argent, c'est un voleur. Quand quelqu'un vous demande de l'argent pour qu'il arrête de vous voler, c'est un racketteur. Donc en ce moment, les banques sont des racketteuses et sont en train de faire le racket du siècle auprès des gouvernements. Et puis, c'est assez curieux, là, depuis hier, où on a dit qu'on allait emprunter de l'argent pour donner aux banques dans ce pays, on nous annonce que ça va rapporter de l'argent à l'État français de nationaliser les banques. C'est curieux parce qu'il y a à peine 2 mois, quand on privatisait, ça faisait faire des économies. Les temps changent. Donc, je ne sais pas pourquoi on a privatisé EDF, privatisé les autoroutes, puisque ça faisait rentrer de l'argent dans les caisses. Donc, c'est bien la preuve qu'il fallait surtout pas privatiser tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, il y a autre chose qu'on n'entend pas, surtout de la part de la gauche, enfin du PS, qui n'est plus la gauche, mais qui s'apprête à voter ce budget. C'est la taxe Tobin. Ça serait bien d'en parler, non, de la taxe Tobin, messieurs les députés PS. Là, c'est peut-être le moment de mettre le paquet là-dessus pour essayer de moraliser et d'avoir des rentrées d'argent, justement, dans les caisses vides que l'on s'apprête encore à vider une fois de plus. Allez, salut, au revoir.
Oui, bonjour Daniel, si tu le permets. Voilà, la crise actuelle m'amène à formuler une proposition que je souhaiterais soumettre à tous les AMG. Contrairement à ce que voudrait nous faire croire le président Sarkozy, la crise financière actuelle n'est pas simplement imputable à quelques dirigeants irresponsables ou des traders voyous qu'il suffirait de mieux surveiller à l'avenir. Les responsables politiques et financiers n'ont toujours rien appris de cette crise et ne veulent surtout pas entendre parler de réglementation bancaire ni de transparence des échanges boursiers. Comme l'expliquait Frédéric Lordon dernièrement, cette crise touche à la nature même du capitalisme. C'est une crise systémique qui remet en cause les fondamentaux de l'ordre économique mondial. Pour tenter de régler l'épineux problème de la sortie de crise, l'UMP vient de proposer des ateliers de réflexion sur la refondation du capitalisme. Excusez du peu, autant demander aux loups de garder les moutons. Cet effondrement du système financier est une occasion historique de remettre à plat les dogmes fondamentaux du libéralisme. C'est l'opportunité de faire entendre des propositions alternatives permettant de retrouver le chemin de l'intérêt général, d'une plus juste répartition de la richesse produite et pour les banques de soutenir plus efficacement l'économie réelle. Il faut que tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette financiarisation débridée de l'économie se concertent à tous les niveaux pour provoquer en France un vaste rassemblement débouchant sur des assises nationales ou des états généraux. Il s'agit en urgence de mettre un terme aux dérives financières mafieuses qui détruisent la planète. Pour cela, nous devons nous rassembler au-delà des clivages des partis politiques pour affirmer qu'un nouvel ordre économique avec de nouvelles règles est possible et que nous commençons à en poser les règles, les bases. Nous ne devons pas laisser l'exclusivité du champ des initiatives politiques à la droite libérale pour imaginer un nouveau capitalisme. L'idée d'un nouveau contrat économique et social est lancée. Construisons un contenu politique pour le faire vivre.
Bonjour Daniel, tout là-bas, si j'y suis, les AMG. Je vous appelle afin de vous donner le tout prochain rendez-vous du Repère d'Aix-en-Provence. Ce sera ce mardi 14 octobre à 19h30 à la brasserie Le Mansart, place Martin Luther King, dans le quartier d'Ancagnan, à Aix-en-Provence. Le thème sera celui de l'enseignement et de l'éducation, à moins que la crise financière en cours en ce moment rabatte vers elle toutes les interrogations. Allez savoir et venez voir. À 19h30 précise, s'il vous plaît, au Mansart, au Repère d'Aix-en-Provence. Tous sont bienvenus, qu'ils soient nouveaux venus ou habitués. Merci et bonne journée à tous.
La crise, quelle crise? C'est fini la crise? De quoi vous parlez? J'entends encore ce mot crise. Mais c'est terminé, ça y est. On a trouvé de l'argent et c'est pas nous qui allons payer, c'est pas les Français qui vont payer, c'est pas les contribuables. Non, au contraire, ça va rapporter de l'argent. Voilà, passons à autre chose et rêvons un peu. Rêvons un peu. Aujourd'hui, nous allons partir en bateau. On va vous emmener en bateau avec François Ruffin, mais pas n'importe quel bateau. Des yachts, très grands yachts à bord desquels nous allons partir. À Monaco, à l'occasion du MYC. Qu'est-ce que c'est le MYC ? C'est le Monaco Yacht Show. Ah ! Les plus beaux yachts du monde ! Formidable, non ? 60, 80, 90, plus de 100 mètres de long qui vont défiler pendant 7 heures entre vos oreilles. C'est pas beau, ça ? Quelle crise ! Mais de quoi vous parlez ? Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour à tous. Je viens d'entendre là, en Éthiopie, il y a à peu près 6 millions de personnes qui souffrent de malnutrition. C'est une souffrance qui est liée à la faim. Voilà. 6 millions en Éthiopie. C'est un chiffre qui fait quand même qui fait tourner la tête. C'est vraiment. Puis on en parle naturellement. Ça choque plus, hein. J'ai l'impression que c'est rentré dans les mœurs. Je répète, 6 millions de personnes. Donc tous les spéculateurs, là, ces gens qui sont derrière leurs ordinateurs, là, hein, qui augmentent les prix des céréales, etc. Je crois que c'est de votre faute, hein, messieurs. Mais je sais que vous, ça vous dépasse tout ça, mais bon. Donc voilà, j'espère que la bourse va continuer à chuter pour permettre, eh bien, de revoir un petit peu tout ce système et de donner à manger à ceux qui souffrent. Parce qu'il y a à manger dans ce monde pour tout le monde. Allez, bye bye. Ciao, ciao.
En 2007, Nicolas Sarkozy avait une opportunité. Creuser franchement les déficits pour sauver le corps social. Il a dit que cela n'était pas possible. En 2008, Nicolas Sarkozy a une autre opportunité, creuser franchement les déficits pour sauver les banques. Et là, il le fait. Donc, le nouveau slogan de Sarkozy pour le corps social, c'est « Travailler jusqu'à la mort pour ne pas crever de faim ». Allez, rappelez-vous, ensemble, tout est possible. Allez, salut Mermet, courage à tous.
Et les syndicats ? Surtout, évitez toute manifestation unitaire qui vous permettrait de montrer et de compter les mécontents. Chut, allez, coucou ce panier. Allez, chut, lui-même vous apporte vos plateaux repas. Allez, donnez la papate, pas bouger.
La marina du port de Monaco ressemble à un coffre-fort en ce moment. Les plus beaux yachts du monde y sont présentés lors d'un salon qui s'adresse, il faut le dire, aux milliardaires. 97 bateaux de rêve en tout, avec des ponts en acajou, des banquettes en cuir et des cabines 5 étoiles. Les carnets de commandes sont pleins, puisque certains clients devront attendre jusqu'en 2013 pour prendre la barre.
tapis rouge comme à Cannes. Mais à Monaco, la montée des marches se fait pieds nus. Rituel incontournable pour fouler le pont d'un yacht. Dans le port, il y en a 97, l'équivalent de 2 milliards d'euros sur l'eau.
Vous roulez en Rolls ? Vous vivez dans des palaces et voyagez en jet privé. Mais vous ne possédez pas encore de yacht. Il est temps d'aller faire votre marché à Monaco, histoire de compléter votre panoplie de milliardaires.
Salut, ici Daniel Mermet avec François Ruffin, Monaco Yacht Show. Flight number 2, arriving from
New York. Alors, je viens d'entrer au salon du yacht. Salon du yacht où on a l'impression qu'on vend presque autant d'avions, de jets, que de bateaux. Alors là, au milieu du concert, un employé de restauration est en train de découper un cochon dans le tandis qu'on sert du champagne dans des gobelets en plastique. Un employé de la restauration en costume noir et blanc est en train de découper une tête de cochon avec le groin posé sur un plateau d'argent. Les visiteurs se sont arrêtés il y a un instant, ils l'ont pris en photo avec le cochon. Un groupe s'est formé, ils ont tous pris des photos et l'employé de restauration a fait une remarque. Ils prennent plus en photo le cochon que les yachts. C'est vrai que l'alignement de ces 500 yachts suscite presque moins d'enthousiasme parfois que de lassitude. Ils sont tirés côte à côte dans le port. On en aperçoit en fait en passant que le ponton arrière avec la passerelle qui se déplie pour les invités. Des masses de plastique posées les unes à côté des autres. Ils sont tous des géants et ça lasse presque. Là, on passe devant un bateau de 36 mètres, The Snapper, une masse noire, un peu une Bentley sur mer, 54 mètres, 44 mètres, 56 mètres, avec chaque mètre qui revient à peu près à 1 million d'euros. Pour l'instant, le plus grand yacht, c'est le yacht du Cheikh de Dubaï, le Golden Star, avec 160 mètres. Et son bateau de 160 mètres va bientôt être battu par Roman Abramovich, le pacha russe, qui ne va pas se laisser faire. Il dispose déjà de 4 yachts, qu'importe. Il est en train de s'en construire un cinquième de 170 mètres. Mais plus que sur la taille, on rivalise surtout sur les gadgets, avec piscine à bord, jacuzzi, sous-marin, piste d'hélicoptère, parfois 2 pistes d'hélicoptère pour les plus prévoyants, un détecteur de missiles, Tajik Gadget, qui sont vendus ici.
€3 000 le couvert. Le chef du prestigieux restaurant Louis XV, de l'Hôtel de Paris, de Monaco, a déployé tout son art pour ce déjeuner dont la facture se monte à 150 000 €. Vous connaissez l'histoire, c'est le prix de l'événement culinaire auquel le groupe Fortis avait convié vendredi 10 octobre une cinquantaine de courtiers indépendants, partenaires de la société d'assurance belgo-néerlandaise, rachetée lundi par BNP Paribas. La dégustation fut royale, le plaisir impérial et la gêne à peine perceptible. Voilà. Voilà la vérité sur cette crise. 50 personnes qui dînaient dans cet hôtel à côté
l'endroit où nous sommes, à Monaco, pour 150 000 euros. On se frottait déjà les mains, on savait qu'on était en train de faire le plus grand hold-up probablement de l'histoire. Et on a eu des nouvelles aujourd'hui, puisque c'est, on ne sait plus, 10 000, 20 000, 500 milliards, des milliards de milliards, on ne sait plus du tout où on en est. On sait en tout cas une chose certaine, c'est que ça ne nous coûtera rien du tout. Au contraire, ça va nous rapporter. Ça va probablement nous rapporter. En tout cas, la crise est finie, on est bien content, on tourne la page. Et jusqu'à 16h, là-bas, si j'y suis, on rêve.
Quand on est riche, on est bien. Bien dans son corps, on a bon cœur. S'économiser, on n'est pas là à transpirer. Quand on est riche, on sent bon. Quand on est riche, on est heureux. Très. On vit dans un cocon moelleux. Même si on est vieux et petit, on plaît aux femmes jeunes et jolies. Quand on est riche, on est beau. On est riche, on fait pas le ménage. Non, enfin, on peut quand on veut partir en voyage. On a un 4x4 imposant, alors on peut rouler sans peur. En cas d'accident, c'est l'autre qui meurt. Quand on est riche, c'est pas rigolo. On doit payer beaucoup d'impôts. Alors on est très affecté, mais on s'empêche de le montrer. Quand on est riche, on est discret. On est beau.
On est beau.
On est bien.
On est bien.
On sent bon.
Dans notre profession, RTT, vacances, congés, c'est pas les pages du dictionnaire, on les arrache à cet endroit-là.
Alors, monsieur M. González, vous êtes project manager. Là, on va aller visiter un bateau.
Voilà.
Alors, c'est assez exceptionnel, parce que depuis deux jours, j'ai pas réussi à visiter un bateau.
Non, les bateaux ne se visitent pas. Les visites se font uniquement sur rendez-vous. Il faut être reconnu client potentiel, en fait, avec un réel potentiel.
Madame González, il y a beaucoup de millionnaires, là, ici, autour de nous, en ce moment ?
Il y en a quand même pas mal, on va dire. En sous-marin, là, il y en a une bonne vingtaine. Et de toute façon, nous ne les verrons pas, on ne les croisera pas. Si éventuellement, on décroche un rendez-vous, ce sera toujours tard le soir, après la fermeture du show.
Ce sont des gens qui veulent conserver leur discrétion et justement, ils essaient de se montrer le moins possible.
Donc là, on passe le long de yachts qui, eux, n'ont pas tous une extrême discrétion.
Non, non, mais ça aussi, c'est le but. Après, il faut montrer que c'est quand même des beaux jouets.
Donc là, c'est des bateaux à trois ponts. Là, il y a un hélicoptère qui est posé sur le pont supérieur. Mais ils sont déjà vendus, ils appartiennent
non.
à quelqu'un ?
Ils appartiennent à quelqu'un, ils sont offerts à la vente. Ils sont sur le marché.
La personne, elle n'aura plus de yacht ou elle s'est déjà racheté un yacht ?
En général, ils en ont déjà un en construction.
Mieux ?
Toujours. Ça, c'est
toujours
un peu plus.
Toujours plus.
The new Moonraker's interior is a rich environment of high-gloss bird's-eye maple wrapped into a neutral color theme that suggests a much larger yacht than before. The Italian marble tops and custom imported bar.
Ah, ils sont beaux, hein? 97 yachts comme ça pour 2 milliards d'euros. Performance and beauty. C'est bien là-bas, si j'y suis. Et en plus, je vais vous dire, on fait le bien. Eh oui, 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 oui. Ce salon du yacht à Monaco fait le bien. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II le dit en préface à ce Monaco Yacht Show. Soucieux, écrit-il, de respecter l'environnement, cette manifestation compensera pour la quatrième année consécutive ses émissions de CO2 grâce au programme carbone neutral. Oui, écolo. Écolo, absolument écolo. Soucieux. Et par ailleurs, le Monaco Yacht Show soutient la recherche afin de trouver des traitements thérapeutiques pour les enfants atteints de la myopathie de Duchenne en reversant la moitié de ses recettes à l'association monégasque contre les myopathies. Parfait. On fait le bien, on est des braves gens, on verse dans les bonnes œuvres et en plus, on est écolo. Ça s'appelle le greenwashing. Greenwashing, ça veut dire qu'on lave plus vert que vert. Il faut mettre du vert partout, où que vous soyez, qui que vous soyez, le vert, ça marche. Là, vous voyez, si vous fabriquez, je ne sais pas moi, des canons, peignez-les en vert. Tout, vous remettez du vert partout et ça marche. Et c'est indispensable, vous montrez votre conscience citoyenne du développement durable. Voilà, des expressions comme ça. Et c'est ce qui se passe évidemment dans ce salon où l'on rêve. That suggests a much larger
yacht than yeah. On est dans les allées du Monaco Yacht Show et on croise monsieur Charlie Erdal.
Voilà, c'est notre agent en Turquie en fait. Partout où on va en Turquie, Charlie s'occupe de nous. On n'a rien à faire, on appelle, on est là à tel endroit et on a tout ce qu'on veut de près sur le quai, les places de port, les approvisionnements en frais, etc. Le but c'est d'être chez nous partout dans le monde en fait. Et ce sont des gens qui nous aident énormément. Si vous voulez, on lui demande tout ce qu'on peut imaginer. Les demandes des propriétaires qui sont complètement imprévisibles.
C'est quoi comme demande par exemple ?
Dans une heure, il faut trouver un hélicoptère, il faut trouver un billet d'avion dans un endroit tout à fait insolite, il faut trouver des framboises fraîches pour le petit déjeuner demain matin.
C'est des caprices un peu quand même, non ?
C'est des caprices, on peut appeler ça comme ça, mais si vous voulez, ce sont des gens habitués à un service, et nous, notre métier, c'est un vrai métier de service.
Votre métier, c'est en fait tous les services qui existent sur Terre, c'est de reproduire les mêmes services sur mer, qu'il n'y ait pas de fracture entre... Alors, Charlie, si on vous demande des framboises, des raspberries, how do you get it? Comment vous l'obtenez?
We ship it from France or from Holland, you know.
Alors ça, on le fait venir par bateau.
We ship it by plane, you know.
Par avion. Yeah. Ah d'accord, on le fait venir.
Il est faux tout à l'heure, donc le bateau.
Comme il faut que ça soit rapide, on fait venir les framboises par avion. Mais alors, il y a un avion spécial pour les framboises?
C'est le propriétaire qui a son bateau, il a forcément son avion.
Il y a le pilote du jet, comme vous dites, qui va chercher les framboises en Hollande, qui les fait parvenir à Charlie. En Turquie, et Charlie les amène en hélicoptère sur le bateau.
La façon la plus rapide, c'est lui qui choisira le moyen de nous les amener. Ça peut être une moto, ça peut être un avion, ça peut être un hélicoptère, ça peut être un autre bateau, puisqu'on est au mouillage. En fait, il y a toute une chaîne de solidarité qui se met en place avec le seul leitmotiv, rapidité.
Pour satisfaire le client.
Voilà.
On grimpe sur la passerelle. On essaye de ne pas envoyer une agro à la flotte. Alors là, sur le bateau d'à côté, il y a un hélicoptère. On appelle ça des toys, des jouets.
Sur tous les bateaux, il y a des jouets. Vous avez les incontournables jet ski. Et puis sur certains, vous avez des petits sous-marins, des hydravions. Il n'y a pas de limite. Hein. Vous avez tout l'arrière du bateau qui s'ouvre.
Là, on peut ouvrir une grande porte.
Vous avez tout ça, là, ça s'ouvre. Vous voyez, toute cette surface-là, c'est monté sur des grosses charnières avec des vérins hydrauliques. Et vous avez dans le garage tous ces jouets.
Alors, mademoiselle, le bateau est vendu avec les jouets ou sans les jouets?
Avec les jouets.
C'est quoi les suppléments offerts?
Vous avez les deux tenders, donc des skis nautiques, ça peut être les donuts, donc tous les jouets gonflables qu'on peut tirer derrière, les speedboats, le wakeboard. Et également, vous avez l'équipement de plongée.
Le wakeboard,
Oui.
C'est quoi le wakeboard?
C'est comme les skis nautiques, mais vous avez juste une planche. C'est comme le snowboard, mais pour l'eau.
Et pour pas faire uniquement pour bronzer bêtement, donc il faut avoir plein de choses à disposition pour occuper les gens toute la journée.
Donc là, on rentre. On peut jeter un coup d'œil au système de navigation, donc à l'avant du bateau. Bon, le fauteuil est confortable pour conduire.
Pour le capitaine, oui, bien sûr.
Ça, c'est la photo de ce qu'on voit devant nous. Il y a une caméra devant.
Oui, il y a une caméra en fait, qui est sur le mât.
Ça permet de voir le paysage et ça permet surtout, quand le bateau est au mouillage, de pouvoir surveiller la zone de mouillage, y compris la nuit, parce que bien souvent, ce sont des caméras infrarouges. C'est une sécurité quand on arrive dans un mouillage de nuit qu'on ne connaît pas, ou parce que vous avez des petites embarcations qu'on voit très peu sur les écrans radars, qu'on les voit très mal. Et ce système de caméra est très performant.
Contre les pirates somaliens, ça peut permettre de voir un peu qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des gens qui veulent vous prendre d'assaut.
On les verra peut-être arriver avant, ça, c'est pas pour autant qu'on pourra les arrêter, mais au moins on sera averti, on les verra arriver. Quoi, voilà.
Et il n'y a rien pour les arrêter là? Il n'y a pas de canon à bord, j'ai pas vu de canon.
On n'est pas des guerriers.
En règle générale, les équipages n'ont pas d'armes à bord, sauf dans des zones à risque, justement comme par exemple la Somalie, où effectivement il y a tout un équipage de sécurité qui vont venir pour protéger le bateau et son équipage.
Il y a des chambres aussi, non? Parce que là, on ne voit pas les chambres. C'est pas un canapé-lit, alors. On n'a pas besoin de déplier le canapé pour s'installer. On descend l'escalier vers le sous-sol. Oh là, il y a une moquette, elle est confortable, elle fait 3 cm d'épaisseur, c'est bien, on est bien dessus.
Oui, et en soie, donc elle est très, très douce.
En soie, d'accord.
Donc ici, nous avons deux cabines doubles, et le master, donc qui est...
La chambre du propriétaire ou la chambre la plus luxueuse.
D'accord, donc il y a bureau.
Téléphone, vous avez docking iPod station, donc pour toute, et également télévision, puisque la télévision, en fait, elle est cachée ici, derrière cette œuvre d'art.
Ah, il y a une œuvre d'art, un tableau qui est posé devant la télévision.
Tout à fait. Si tu appuies sur ce bouton, en fait, elle descend.
Allez-y. Ah, c'est classe quand même. Là, il y a quelque chose qui se cache derrière l'œuvre d'art ou pas?
La salle de bain.
Ah, il y a la salle de bain, là? Oh là, c'est bien, c'est confortable. Il y a même une baignoire, quoi.
Oui.
Baignoire, douche.
Grande douche.
Moi, je ne suis pas contre habiter ici. Alors, si j'achète ce yacht, je voudrais savoir combien ça consomme. Quand j'achète une voiture, je veux savoir combien ça consomme au 100. Là, combien ça consomme à l'heure?
Bon, ce sont des bateaux qui consomment entre 500 et 600 litres heure avec les moteurs et tous les générateurs en fonctionnement. Bon, ça reste des consommations qui sont malgré tout raisonnables étant donné la taille des bateaux. On a des bateaux qui sont vraiment au top de tous les systèmes écologiques qu'on peut trouver. Et il faut savoir aussi qu'on ne rejette en mer absolument aucun déchet.
J'ai l'impression que la nouvelle tendance, la nouvelle mode, c'est de mettre une part d'environnement dans le bateau.
C'est beaucoup plus qu'une mode, c'est un souhait en fait des propriétaires qui sont des gens qui sont très sensibles à l'environnement.
The panoramic etched glass creates a distinct ambiance forward. A marble breakfast bar with ample recessed storage complete this well-designed area. The use of custom stainless Malcolm Cole designs is prevalent throughout the yacht. The magnificent stairwell railings and the custom leather-covered stools truly complement her clean design.
Pour ce gadget, là on passe, il y a un petit sous-marin, on croirait sorti de Tintin, un sous-marin orange. Là il y a un avion aux ailes rétractables, un avion qui peut se poser sur la terre, sur l'eau, sur la neige. Ce qui surprend le plus, c'est notre course. Une course à l'environnement, une course dans le discours. Là, par exemple, la publicité pour cet avion aux ailes rétractables montre un yacht qui doit bien faire 40-50 mètres de long, un yacht qui fonce sur la mer avec l'avion posé sur le ponton arrière du yacht. Et le slogan, c'est « Ecological Yachting Lifestyle », style de vie écologique du yacht. C'est l'un des mots les plus utilisés du dossier de presse, par exemple, qui est remis pour ce salon. C'est « Environment, Green Attitude, l'attitude verte ». On est en train de publicité sur les stands avec les mots « Green, Respect the Environment ». Un milliardaire a même commandé un yacht avec une forêt à bord. Philippe Stark, qui vient de designer le A, ce bateau avec deux pistes d'hélicoptère
avec une discothèque, avec une piscine, au toit transparent. Philippe Stark possède 21 maisons partout dans le monde, 21 motos, et il circule avec un jet privé entre ces 21 maisons. Philippe Stark parle, lui, des yachts en harmonie avec la nature, et pour son avion, il parle de jet écologique. J'avais beaucoup aimé le livre d'Hervé Kempf, Comment les riches détruisent la planète. C'est un peu comme si on était dans l'endroit qui illustrait cette destruction de la planète, puisque un yacht consomme 1000 à 2000 litres de carburant par heure. D'où cette course au politiquement propre, comme l'indique le dossier de presse, tout un discours qui habille cette destruction accélérée de la planète.
Voici le Paloma ce soir au large de Malte. C'est à bord de ce yacht que Nicolas Sarkozy a choisi de passer quelques jours, le temps d'investir la fonction présidentielle, comme il l'avait annoncé avant l'élection. Il est accompagné à bord de son épouse Cécilia et de leur fils Louis. Le bateau compte 7 cabines grand luxe et un jacuzzi sur le pont supérieur. Nicolas Sarkozy a atterri à Malte hier soir à bord de ce jet privé immatriculé en France. Le yacht a levé l'ancre immédiatement cap au sud. Les Sarkozy ont passé la nuit au large de Delimara et ce matin, le bateau a pris la route de Syracuse en Sicile. Sur ce site internet, la location à la semaine du Paloma est proposée pour 193 000 euros. Aucune information n'indique ce soir qui a pris en charge les frais de location. Le yacht appartient au groupe Bolloré, tout comme le jet privé. Un aller simple entre Paris et La Valette coûte normalement 40 000 euros. Ce soir, l'entourage de Nicolas Sarkozy, l'UMP et le groupe Bolloré ne font aucun commentaire.
Ah oui, mais c'était un petit yacht de 60 mètres, hein, c'est tout. Celui de Bolloré, le Paloma, là, c'est 60 mètres. Alors que là où nous sommes, à ce salon du yacht de Monaco, le 90 mètres n'est pas du tout exceptionnel. Hein. Non, c'est tout à fait courant. Quelqu'un à l'époque avait dit que la somme dépensée pour cette petite escapade présidentielle correspondait à 17 années de salaire pour un smicard et 36 années de revenus pour un RMiste. C'était l'APES qui avait fait ce calcul, l'Association de défense des chômeurs et des précaires, le genre de remarques de mauvais goût, qui avait fait dire ceci à Michel Barnier, qu'il était, je cite, « frappé par l'arrogance des mauvais perdants ». Frappé par l'arrogance des mauvais perdants, c'est-à-dire l'Association de défense des chômeurs et des précaires. Voilà, on continue cette visite donc de ce Monaco Yacht Show avec, vous avez vu, un peu notre expert François Ruffin qui vraiment, je trouve, nous fait rêver.
On avance là le long des yachts sur le ponton mobile du port. On avance avec Paolo Moretti, qui est expert à la société RINA, société d'expertise qui avait déjà expertisé Erika. On va se rendre au bateau Sea Force One, le bateau qui cette année a reçu le Green Star Yachting.
We created 2 years ago this very specific and very strict set of rules in order to guarantee that mega yachts are designed, built and also operated in a total environmental friendly way.
Ça fait 2 ans qu'on a mis en place des règles pour s'assurer que à la fois du design, la conception et la fabrication du bateau étaient faits de manière compatible avec l'environnement. Alors là, on arrive devant le Sea Force One. C'est une masse énorme, une masse noire de 54 mètres de long. C'est un bateau à 3 ponts. Très impressionant, very, very big.
Very impressive, yes.
Quand on pense à un bateau qui est compatible avec l'environnement, on pense à un bateau qui fonctionne à voile, un petit bateau qui fonctionnerait à voile. Là, c'est au contraire un bateau très massif, énorme.
Yes, of course. At the beginning, it's a little bit strange to look at this very, very huge mega yacht.
Au début, c'est effectivement un peu étrange de regarder à ce super énorme mega yacht comme quelque chose de compatible avec l'environnement.
But then, if you go through the specification, and you can see that.
Mais maintenant, si vous regardez les spécifications de plus près,
let's say that she is environmental friendly from the bottom to the top.
Alors on peut dire que ce bateau est compatible avec l'environnement du bas jusqu'en haut. Combien est-ce que vous connaissez la consommation de fuel de ce bateau par heure de voyage? Vous ne savez pas combien ça consomme?
Non, because it's something that we are not directly involved on.
Non, c'est parce que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas directement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'hypocrisie à attribuer un prix de Green Star Yachting pour des bateaux qui consomment des milliers de litres pour très peu de personnes à bord?
No, because I think that this is a way to put to the attention of all the yachting community.
Je pense que ce n'est pas de l'hypocrisie, je pense que c'est une manière d'éveiller la conscience de toutes les personnes qui appartiennent à la communauté du yacht.
Comment les riches détruisent la planète? Vous vous souvenez de ce livre et de son auteur Hervé Kempf, qui est journaliste par ailleurs au quotidien Le Monde. On l'avait reçu pour ce livre, et comment les riches détruisent la planète. Kempf, il n'est pas le seul, fait un lien entre cette richesse ostentatoire, qui est quelque chose de très enfantin, au sens où, voilà, j'ai la mienne est plus grosse que la tienne, quoi, c'est ça, en gros. Le yacht, j'en ai un qui fait. Le tien, il fait 50 mètres, le mien, il fait 55, et après 80, etc. Voilà, c'est celui qui aura la plus grosse. Et, bon, on rigole, c'est pas grave, c'est une petite pathologie. Sauf que, non, il y a des conséquences, évidemment, à tout ça. Et c'est pas en se repeignant en vert, en se passant un petit coup de vernis vert, qu'on fait croire à autre chose. Mais on voit bien que nos amis, les richissimes, sont quand même assez soucieux de ça et tiennent absolument à se déguiser. On retrouve Hervé Kempf, donc auteur, je le rappelle, de « Comment les riches détruisent la planète ».
Monsieur Hervé Kempf, vous êtes journaliste au Monde. Vous êtes l'auteur de « Comment les riches détruisent la planète ». Et il me semble qu'en me rendant à Monaco, c'est comme si je m'étais rendu dans le lieu qui illustre le mieux la thèse de votre ouvrage.
Qu'il y a une articulation très profonde, intime, entre la crise écologique et la crise sociale. Le fait que nous sommes redevenus une société profondément inégalitaire, dans laquelle la partie dominante de la société, la couche supérieure que j'appelle l'oligarchie, accumule les pouvoirs économiques, politique et en très large partie médiatique, de manière tout à fait extraordinaire. Alors quel est le lien avec l'écologie? Je m'appuie là-dessus sur la théorie d'un économiste américain du siècle dernier, Thorstein Veblen, qui expliquait que nous sommes pris dans une course symbolique à la rivalité ostentatoire, en quelque sorte.
La taille des yachts, par exemple.
Et évidemment, les oligarques sont eux aussi tout à fait dans cette course au toujours plus, au toujours mieux, au toujours plus grand.
Mais alors, pour autant, est-ce que ces gens qui, donc à Monaco, ont un yacht, un jet, un hélicoptère, détruisent, comme vous dites, la planète?
Ben, ils le détruisent directement. Du fait que, par exemple, si vous prenez ces yachts, vous pouvez dire que tous les ports sur la Côte d'Azur et dans un certain nombre d'endroits ont été agrandis. L'écosystème marin a été détruit pour permettre ces grands yachts. Évidemment, ils vont consommer énormément d'énergie. Mais le plus important, me semble-t-il, est ailleurs. Il est dans le modèle qu'ils projettent sur l'ensemble de la société. Parce que les individus dans une couche sociale prennent modèle sur la couche qui est au-dessus d'elle. Et ainsi de suite, du bas en haut de la société. Et finalement, ce qui est important de voir, c'est que c'est le groupe social qui est au sommet de la société, de la pyramide sociale, qui va définir le modèle culturel de consommation ou de prestige, plus exactement, pour l'ensemble de la société. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans une société extrêmement inégalitaire comme la nôtre, où il y a un gaspillage absolument énorme, incommensurable au sommet de la société, et où c'est ces oligarques super gaspilleurs qui définissent le modèle culturel? Ben, ils nous entraînent finalement par la publicité, par la télévision, par ce désir d'imitation, dans une surconsommation extrême.
Vous voulez dire que je vois ces oligarques qui ont un yacht, qui ont un jet privé, qui ont un hélicoptère, je ne vais peut-être pas me payer ça, mais je vois qu'ils ont une piscine privée, je vais vouloir avoir ma petite piscine.
Ben, exactement, et puis on peut même descendre l'exemple des bateaux. tel oligarque américain russe aura un yacht de 140 mètres de long, grand patron de PME aura un yacht à moteur de 30 mètres de long, et puis de fil en aiguille, puis la classe moyenne prospère voudra avoir un bateau, parce que c'est bien d'avoir un bateau, donc il aura son bateau à La Rochelle, et puis des individus moins prospères voudront aussi faire de la croisière. Enfin, il y a une sorte de gradation, de percolation, en quelque sorte, du haut en bas, qui nous pousse tout à fait à imiter ce comportement. On a là l'exemple typique, effectivement, comment ce mécanisme psychologique de suprématie ostentatoire se traduit par un désordre écologique bien concret.
On a les yachts, puisque c'est 24 à 36 mètres. On a les super yachts, de 36, on va dire, à 45. Après, on a les méga yachts. Puis après, peut-être, il faut créer des catégories, les véga yachts, puisque, évidemment, on est sur le no limit. Et je pense même me hasarder, pas trop, en disant que dans les années futures, il y aura très peu de secteurs qui échapperont au dévissage, à la crise, à des yo-yo comme ça. Mais je pense que ce grand yachting est un peu au-delà des marchés. Aujourd'hui, nous avons sur la planète à peu près 4000 bateaux de plus de 24 mètres qui flottent sur les océans. Je pense que d'ici 2010, il y en aura pratiquement le double. Les commandes, les carnets de commandes sont pleins pour 4 ans. Ça pourrait paraître aussi insultant par rapport à tout un chacun. On sait qu'on est dans un monde extrêmement précarisé, où d'un côté, on a la masse des précarisables, vous et moi inclus, hein. Et de l'autre côté, sur 0,02% de la population mondiale, les gens qui peuvent s'acheter à peu près tout ce qu'ils désirent. Il faut aller au-delà de ça et se dire que pour le moment, on ne peut pas refaire le monde. Alors voyons le bon côté des choses. C'est un secteur d'activité en plein essor. On vit dans un monde libéral et un marché, une économie de marché. Essayons de faire avec, essayons de créer de l'emploi, de la richesse avec ça. Et soyons satisfaits que déjà, nous, Europe, avons su capter ce savoir-faire.
Alors moi, je viens ici avec, pour information principale, votre dossier de presse. Hein. Alors il y a quelque chose qui est très présent, une énorme partie consacrée à la défense de l'environnement, hein, vous en parlez dans votre dossier de presse, ce que vous appelez la verte attitude, par exemple le fait que quand on produit un yacht, ça se fait plus, les courriels ne sont plus imprimables apparemment, ça se fait plus avec des plans sur papier, mais ça se fait avec des plans qui sont directement sur ordinateur de manière à ne pas consommer de papier. Les éclairages par diode à l'intérieur des navires sont faits avec une plus faible consommation. Vous parlez aussi d'éco-gestes. Sur les yachts, il y a un désir d'être plus soucieux de l'écologie.
Il faut le prendre de manière aussi sérieuse qu'on le prendrait sur n'importe quel secteur d'activité et pas comme une danseuse ou quelque chose qui ferait légèrement sourire. Aujourd'hui, ils ont mis dans les processus et puis les différentes entreprises le développement durable comme un paramètre avec lequel il fallait compter.
On est sur le ponton du One. Un yacht de 25 mètres comme ça, vous savez combien ça consomme de gasoil en une heure?
Moi, j'ai aucune idée parce que je suis organisateur d'événements. J'ai assez peu d'idées, en fait, de comment fonctionne la Grande Plaisance.
Écoutez, on peut peut-être aller leur demander éventuellement combien ça consomme. C'est à qui on peut demander ça, d'après vous?
Grazie. Prego. Juste une demande. Le signore voulait savoir quanto... Combien qual era il consumo?
In litri all'ora?
Sì.
E consuma sui 650 litri l'ora.
650 litri par heure.
C'est en une heure à peu près la consommation d'une année d'un automobiliste.
Voilà.
Viaggia solo due settimane l'anno.
Par contre, il voyage que deux semaines par an.
Heureusement que le gasoil est détaxé pour vous.
Ok, grazie.
Grazie, grazie. On enlève les petits chaussons en plastique qu'on mettait sur le ponton du bateau.
C'est pas extrêmement écologique dans sa consommation, mais je suppose que le propriétaire aura sûrement à cœur de mettre son bateau sous le label carbone neutral, par exemple.
Pour Hervé Kempf, c'est clair, les riches menacent la planète. Il nous l'a dit, ceux qu'il appelle les oligarques gaspilleurs sont ceux qui définissent le modèle culturel. Ce sont eux qui, avec ces jouets, ces énormes jouets, nous font rêver, sont censés nous faire rêver. On dit que c'est ça qui est beau, on dit que c'est ça dont il faut avoir envie. Alors on croit qu'on en a envie. Peut-être qu'on en a envie, peut-être qu'on s'en fout, mais c'est la... Il faudrait qu'on parle un jour de la normopathie.
Il faudrait qu'on développe cette idée. Mais on est enclin à la normalité. Tous. C'est tellement difficile de dérailler. Hein, c'est très difficile de sortir des fameux sentiers battus. Donc on croit que c'est ça qu'il faut. On veut rêver, on veut vivre plus, vivre mieux, vivre. Voilà, on veut être heureux, on veut se dilater, on veut la sentir passer, cette putain d'existence. Alors on croit que c'est ça qu'on veut. Et donc on copie ça. Et c'est un désastre, et c'est en cela que les riches détruisent la planète. Hervé Kempf.
Toutes ces personnes qui ont un yacht, qui ont un jet, qui ont un hélicoptère, ont un discours écologique. Au Monaco Yacht Show, on a délivré la Green Star, l'étoile verte du yacht le moins polluant. Quand on va à Monaco, il y a une personne qui est responsable de la fondation Albert II qui dit bien qu'elle a sa voiture électrique.
Bah, ils se foutent du monde, tout simplement. C'est comme Richard Branson, le patron de Virgin, qui dit à la fois « je suis très écolo, je veux aller vers l'environnement, etc. » mais qui en même temps promeut le projet d'une fusée pour permettre aux personnes les plus riches de la planète d'aller assez régulièrement se promener dans l'espace. Alors qu'on sait que des voyages fréquents en fusée seraient une consommation de carburant absolument colossale. Je crois qu'on a là la tendance de ce qu'il faut bien appeler un capitalisme repeint aux couleurs vertes. C'est-à-dire, de plus en plus, on va nous dire « mais voyez, je suis en papier recyclé, donc je peux imprimer n'importe quelle bêtise. Ma voiture est électrique, donc ça ne pose pas de problème. Mon bateau de 120 mètres de long est en plastique recyclable, donc tout va bien. » Je crois que c'est une fumisterie, malheureusement, qu'on le veuille ou non, pour aller vers la prévention de la crise écologique, il faut nous orienter vers une réduction de la consommation matérielle.
Mais en même temps, il y a un certain nombre de personnes sincères qui portent ces notions d'environnement dans un cadre qui ne l'est pas du tout. Quand on rencontre donc le patron du Monaco Yacht Show, eux, ils disent, en gros, on ne peut pas changer le système, donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire des éco-gestes pour être en paix avec soi-même. Et là, je cite le dossier de presse du Monaco Yacht Show.
C'est ce que le capitalisme vert essaye de nous dire en ce moment. Restez des consommateurs isolés, restez des individus, mais consommez bien. Consommez vert, consommez recyclable, et comme par enchantement, par la loi magique du marché, les choses s'arrangeront. C'est non seulement faux, mais c'est en plus contre-productif si on s'intéresse à l'environnement. C'est pas en tant que consommateur qu'on changera les choses, mais c'est en tant que citoyen remettant en cause l'organisation du pouvoir. Et ça n'est pas parce que, pour être très concret, je ferai du vélo que ça empêchera un système absurde de construire des autoroutes ou de développer des usines automobiles.
Quand on fait la remarque qu'ils consomment pour 1000, 10 000 personnes, c'est colossal, la réponse c'est oui, mais peut-être qu'ils cliquent sur carbone neutral et qu'ils versent sa quote-part pour rembourser sa consommation personnelle de kérosène, de gasoil, etc.
Bah, je crois qu'une fois de plus, ils se moquent du monde parce que c'est les mêmes gens qui sont totalement opposés à une fiscalité sur les super riches, qui ont pesé pour faire diminuer dans tous les pays occidentaux la fiscalité sur les hauts revenus et qui maintenant nous parlent d'une compensation carbone. Mais puisqu'ils emploient, ils sont prêts à employer le terme de fiscalité, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il faut continuer à promouvoir un revenu maximal admissible pour ces personnages.
Mais alors, eux, ils disent qu'il faut une fiscalité, mais une fiscalité responsable. Ils donneront d'eux-mêmes, mais qu'on ne leur impose pas.
Écoutez, vous avez été à Monaco. Monaco est une des lieux célèbres dans le monde pour être un lieu d'évasion fiscale et un paradis fiscal.
Voici l'intérieur du nouveau Moonraker, un environnement cossu pour lequel nous avons choisi les essences les plus nobles. Il suggère un yacht beaucoup plus grand qu'avant.
Bonjour à tous. Que se passe-t-il réellement ce matin au large de la Somalie? Une trentaine de Français, tous membres d'équipage d'un luxueux voilier de croisière, sont toujours retenus en otage depuis hier par un gang de Somaliens.
Les plafonds de marbre italien, ainsi que les barres sur mesure, égayent les tapis de soie.
Une trentaine de Français, membres d'équipage d'un voilier de luxe, sont a priori toujours aux mains de pirates ce matin. Hier, leur navire a été pris d'assaut par un gang de Somaliens, en réalité une puissante mafia des mers qui attaque régulièrement les bateaux aux lance-roquettes.
La performance, mais aussi la beauté, sont la définition de l'élégance contemporaine du yacht.
Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? On vient de le dire. C'est le modèle culturel qui attire, pas seulement nous, les gogos franchouillards, les Somaliens aussi sont amateurs de bateaux. Les grands bateaux comme le Ponant, 88 mètres de long, 3 mâts, équipé de 32 suites. Alors, pour éloigner un petit peu ces Somaliens trop curieux, il a fallu quand même leur verser une rançon de 2 150 000 dollars, qui a été par la suite, vous vous souvenez de cet épisode, parce que ça masquait toutes les autres nouvelles et toutes les autres informations, qui a été en partie récupérée. N'empêche que ça, au moment où on se dit, et si on s'achetait un yacht, nous, l'équipe de la base, j'y suis, avec le pognon qu'on se fait avec l'argent public, il n'y a pas de raison qu'on détourne pas, nous aussi, un peu d'argent public. On hésite parce que, y a des pirates. Eh ben oui, il y a des pirates. Alors, on se renseigne.
Donc là, on se trouve au stand de Transmer Assurance. Excusez-moi, je vais regarder votre badge. Alors, vous êtes Jacques-Henri Guillet, souscripteur Transmer.
En fait, nous sommes des courtiers. Nous, on propose notre contrat.
Mais toutes les histoires de pirates et puis tout ça. Est-ce qu'il y a une assurance contre les pirates ?
Alors là, vous êtes tombé chez le bon courtier. Parce que nous, on a la chance. Effectivement, notre contrat, excusez-moi, je ne vais pas en faire de la pub, mais le contrat dont on dispose n'exclut pas justement le risque piraterie. Donc effectivement, en ce moment, par exemple, tout ce qui est la corne de l'Afrique, bon, en Somalie, tous ces coins-là, nous, nos assurés qui sont en ce moment en train de passer par là, on en a quelques-uns qui naviguent dans le coin, ou en tout cas, on leur demande d'être vigilants.
Alors, vous dites être vigilant, ça veut dire quoi, alors ?
Alors, la vigilance, elle passe par quoi ? C'est éviter, évidemment, de longer de trop près les côtes. La navigation en flottille est quand même préférable.
En flottille, ça veut dire
plusieurs bateaux. On se retrouve à Djibouti. Bon, tiens, tu fais quoi ? Oui, je descends à Madagascar. Toi aussi. On passe ensemble.
On y va à 4-5 yachts,
c'est ouais. Ça ? Pour essayer de se protéger. J'en ai même qui m'ont dit, nous c'est simple, qui ont l'habitude de passer par là, par exemple la nuit, de naviguer, tout feu éteint, tout éteint. C'est même pas, de façon à ne pas laisser aucune trace, même sonore, même un radar. Donc ils vont jusqu'à tout éteint.
Rouler feu éteint alors, et vous couvrez la rançon, alors vous remboursez la rançon dans ces cas-là ?
On va pas payer la rançon nous, on va payer les dégâts qui vont être faits au bateau. Donc effectivement, la partie rançon, on va pas être là pour la payer. En revanche, dans l'opération, le bateau va être endommagé, les gens blessés, là on va intervenir. La rançon, c'est un autre domaine.
Et est-ce que vous conseillez de s'armer ou bien...
Non, surtout pas.
Pas de canon, rien ?
Non, 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 ne transformons pas nos bateaux en, de plaisance en engin de guerre. C'est des mecs qui n'en ont rien à faire de la vie. Ils s'en foutent, ils sont tellement désespérés que c'est pas grave. Donc
il vaut mieux s'écraser, quoi. On leur file les clés du bateau et puis tout ça.
Vaut mieux donner.
On a la météo marine sur France Inter. D'accord. Donc il faut aussi qu'on informe nos auditeurs des lieux par où passer et par où ne pas passer, quoi, avec leur yacht.
Merci à toutes et à tous, à Eric Pétovino, à monsieur et madame Gonzalez, et également à Hervé Kempf, auteur, on le rappelle à nouveau, Comment les riches détruisent la planète, c'était aux éditions du Seuil. C'était un reportage de François Ruffin. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. Et sur chacun de ces sites, vous pouvez faire des commentaires, écrire des... vos commentaires. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Sandrine Laurent, Koyen Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assistés de Charlotte Perry et Saint-Agnès Lebotte qui attend vos messages sur le répondeur de la baisse. J'y suis au 01 56 40 37 37.